Oui, Dieu est grand, et il veut que nous le connaissions comme étant grand. Dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Paul est soucieux justement que cette grâce, que la paix, non seulement nous soit communiquée, mais que cette grâce et cette paix nous soient multipliées. Regardez bien cette prière de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre au chapitre 1er et au verset 2. Nous devrions nous arrêter parfois sur des textes d'introduction. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2e. Regardez cette prière. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse. J'ai la paix, j'ai la grâce de Dieu, mais je suis d'accord pour que ces choses-là se multiplient. » Vous êtes d'accord? En tous les cas, c'est là, Dieu est d'accord. Dieu veut que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce n'est pas parce que les ténèbres s'épaississent, que les temps sont difficiles, que notre grâce et notre paix doivent diminuer. Alors comment la grâce et la paix nous sont multipliées? Regardez bien, parce que c'est ça être sérieux devant Dieu. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, pas par les connaissances bibliques. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Donc cette grâce et cette paix, et nous sommes tous intéressés à ce que ces faveurs se multiplient, le seront par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Regardez le verset 3, la participation à la nature divine, qui est un grand bienfait pour l'Église. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il n'y a pas à faire. Comment ? Une fois de plus, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, vous voyez, deux versets qui nous montrent la grâce, la paix et la participation par la connaissance de Dieu, de Jésus. Regardez au verset 4 les conséquences. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Au verset 6, il nous est demandé d'ajouter à la vertu la connaissance. Regardez encore au verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi ? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ces quelques versets que nous venons de lire en disent suffisamment, assez, pour que nous comprenions qu'un chrétien, il doit connaître Dieu. Écoutez, nous sommes peinés de devoir dire ça dans les églises des assemblées de Dieu de Pentecôte, que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la Bible, ils peuvent vous dire oui, dans le Lévitique, il est parlé des fêtes, des sept fêtes en Israël, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui a institué ces fêtes. Ils peuvent vous dire, ah ben moi je connais par cœur l'histoire de David et Goliath, je peux vous même prêcher là-dessus, mais ils ne connaissent pas le Dieu de David. Et s'il y a bien une chose qui devrait nous préoccuper lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, c'est de dire, est-ce que je connais Dieu ? Est-ce que déjà, je vous assure, écoutez, je ne veux pas mépriser personne. Il y a des gens, leur légèreté, leur misère, leur impiété, etc. Je pourrais trouver tous les mots. Et la preuve, ils aimeraient aimer Dieu, ils aimeraient le connaître, mais le fruit n'est pas là, ils ne le connaissent pas. Donc nous sommes ce soir dans la maison du Seigneur, notre souci, je le crois, c'est de dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. D'autant plus qu'il y a des répercussions extraordinaires. La grâce et la paix. Vous vous rendez compte, les temps s'affaissent, les temps sont difficiles, et nous, les chrétiens, nous pouvons voir la grâce et la paix multipliées. Ça vous va? Vous êtes d'accord pour que nous connaissions un peu mieux le Seigneur? Alors nous allons partir d'un témoignage, d'un homme de Dieu, parce que vous savez, on a tous besoin d'apprendre. Que vous ayez 3 semaines de conversion ou 90 ans de conversion, on a tous besoin d'apprendre. Vous êtes d'accord? On a besoin d'apprendre. Alors, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, il y a un homme de Dieu qui est un homme de Dieu. C'est quand même quelqu'un. On va parler de quelqu'un qui a vraiment obéi à Dieu. Il obéissait à Dieu. Chaque fois qu'il était quelque part, Dieu l'avait voulu, c'est clair. Quand vous regardez la vie d'Élie, je ne parle pas du sacrificateur, mais du prophète, vous voyez un homme qui obéit. Il s'avère que Dieu va l'amener plus loin dans une expérience où le feu du ciel va descendre sur l'autel qu'il va établir. Une expérience extraordinaire, la puissance de Dieu va se manifester et le résultat n'a pas été celui qu'il attendait. Résultat, regardez, il a vraiment fait des expériences. Quand vous lisez la vie d'Élie, c'est impressionnant. En plus, c'était un homme, la Bible dit, de la même nature que nous. Regardez, il fait une expérience extraordinaire, il est fatigué, c'est vrai. Un roi 19. Je vous rappelle, le titre de ma prédication, c'est de connaître Dieu, pas la Bible. Un roi 19, il a vraiment expérimenté, il a vu la puissance de Dieu. Je le répète, c'est important. Et pourtant, qu'est-ce qu'il se passe? Un roi 19, Akab, dont c'est le roi, rapporte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire... « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Il aurait dû dire, « Eh bien moi je l'attends. » Vous croyez que Jézabel aurait pu tuer Élie? Vous croyez vraiment? Non, parce que son travail n'était pas terminé, croyez-moi. La preuve, elle vient après. Regardez sa réaction. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voyez, le résultat n'est pas là, et cet homme, il s'enfuit dans le désert. Il s'enfuit dans le désert, et il y laisse son serviteur. Vous savez, quand on commence à faire le vide, parce qu'on a besoin des frères, est-ce que vous le savez que vous avez besoin des frères et des sœurs? Vous savez, quand on commence à faire le vide, il nous est dit qu'il s'enfuit, il part, il avait son serviteur, puis après il se sépare de lui. Vous savez, on a besoin de l'Église, on a besoin de solitude. Alors ça, moi je sais, j'aime la solitude, parce que c'est dans ces moments de solitude où je peux méditer la parole de Dieu et recevoir tout ce que je partage avec vous. Mais je peux vous dire qu'autant on a besoin de solitude et on doit aimer la solitude, autant on doit aimer la communion fraternelle et partager ensemble et prier ensemble. Et quand on commence à faire le vide autour de soi, laissez-moi vous dire que c'est pas bon signe. Je parle des amis spirituels, bien sûr. Si vous faites le vide avec, vous vous tournez vers Dieu et vous connaissez des gens impies, vous faites le vide, ça se fait d'ailleurs naturellement, parce que les ténèbres ont du mal à coexister avec la lumière, même s'il est bon de garder des contacts avec des amis. Donc cet homme, il est là, Dieu va devoir lui poser une question, on va le voir tout à l'heure, et c'est ce que nous voyons souvent dans la parole de Dieu, dans l'introduction à la prière tout à l'heure, nous avons vu que Dieu s'adresse à Zacharie, il lui pose une question, qu'est-ce que tu vois ? Et si vous lisez la Bible, vous voyez que souvent Dieu retrouve la communion avec ses enfants en posant des questions. Dieu sait très bien ce que Zacharie voyait, etc. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu ? Lorsqu'il est dans le jardin d'Éden, Dieu savait très bien où il était. Ce qu'il y a, c'était que Dieu voulait retrouver la communion avec lui. C'est pour ça que quand une question vous est posée, soyons intelligents et comprenons bien que Dieu veut retrouver la communion avec Dieu. Il n'a pas l'intention de nous embarrasser. C'est nous qui sommes mal intentionnés et qui comprenons mal les questions du Seigneur. Donc, Élie, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu et Dieu permet que cette affaire de découragement soit là dans le canon des Écritures. Pourquoi ? Eh bien pour que la grâce et la paix nous soient multipliées. Dans le temps que nous vivons, si nous ne grandissons pas dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, eh bien nous nous étiolerons et nous finirons par être ces croyants qui ressemblent à des vierges folles, qui ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas appris à connaître le Seigneur. Donc, Élie est un homme de Dieu. Moi, je prêche régulièrement ce que Jésus a dit. Demandez et vous recevrez. Est-ce que Jésus l'a souvent dit ça ? Demandez, vous recevrez. Oui ou non ? Et chaque fois que Élie a prié, en principe, c'était... D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est dit que Élie, il pria avec instance et Dieu l'a exaucé. Oui ou non ? Là, il va faire une prière que Dieu ne va pas exaucer. Il demande la mort et Dieu ne le tue pas. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu n'exauce pas toutes nos prières ? Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Il faut comprendre comment Dieu s'y prend pour restaurer quelqu'un qui est en train de se tromper. Parce que lui, il pensait qu'il avait fait descendre le feu du ciel. Bah, c'était la volonté du Seigneur, tout ça, j'abrège. Mais que tout le monde allait se convertir, que Jézabel allait tomber à genoux et se prosterner devant le Dieu Tout-Puissant. Elle ne prend pas le chemin. Et c'est vrai qu'on peut être frustré, déçu, offensé, découragé, lorsqu'on ne voit pas les choses tourner comme on voudrait qu'elles tournent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On n'aimerait pas, nous, que Dieu fasse comme ci et que Dieu fasse comme ça. Et si Dieu agissait ainsi, les gens se convertiraient. Si Dieu montrait sa puissance, je suis sûr que tout le monde se convertirait. Moi, vous savez, je connais quelqu'un qui a manifesté sa puissance d'une façon extraordinaire et on l'a crucifié. Ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Donc, nous sommes confrontés à des moments d'épuisement, des moments de fatigue, des moments de souffrance. Notre âme peut être affectée. Et d'ailleurs, si vous avez une concordance, je vous encourage, ça vous aidera à la prédication de dimanche, à regarder toutes les fois où on voit que l'âme de quelqu'un peut être pas bien. C'est pas tout le monde qui peut dire « l'Éternel restaure mon âme ». Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu, pas un jour et trois jours, non. C'est quelqu'un qui vraiment a compris l'importance de la communion avec Dieu. Et bien sûr, il est conduit dans les verts pâturages, il est conduit près des eaux paisibles. Quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous avez vu le psaume auquel je fais référence. Et David dit, il restaure mon âme. Mais quand vous voyez la parole, vous voyez que notre âme peut être malade. Est-ce qu'il y a des psaumes où il est dit, mon âme est malade ? Mon âme est souffrante, mon âme pleure de chagrin, mon âme est troublée. Moi, je pris la concordance ce matin, je lisais, mon âme est attachée à la poussière. Prenez la concordance et vous allez voir le nombre de fois. On va juste lire quelques versets dans le psaume 107. Gardez la page de 1 Roi 19. Regardez, le peuple, il est là, leur âme est malade. Regardez, psaume 107. On va lire quelques versets qui montrent combien l'âme de quelqu'un peut être mal. Et ça peut arriver, vous voyez, à ce moment donné, une réaction, et des fois en quelques heures, un homme peut fuir. Psaume 107, verset 4. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Vous voyez, leur âme était languissante. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Verset 9. Car il satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Vous voyez, c'est terrible quand on n'aime plus la parole de Dieu. Oui ou non ? C'est terrible. D'ailleurs, à un moment, ils l'ont dit, notre âme est dégoûtée. Ils ont eu le culot, excusez-moi l'expression, de dire ça de la manne. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mais on entend des fois des croyants dire « Oh, j'en ai assez de la parole de Dieu ». Mais il y a un problème. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'un chrétien qui connaît le cœur de Dieu, il aime la parole du Seigneur. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu est en très grand danger. Très grand danger. Le verset 26, ils montaient dans les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue, voyez, en face du danger. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir le nombre de fois où l'âme de quelqu'un peut être malade, affamée, languissante. C'est David qui dit, mais mon âme est en prison. Et c'est dans le, je ne sais plus quel psaume c'est, j'allais lire l'autre jour, le psaume 141 ou 142, etc. Oui, Dieu nous aime trop, écoutez bien ce que je vous dis, pour répondre à toutes nos prières. Il sait, comme on le chante parfois, il sait si bien ce qu'il me faut. Et lorsque nous nous retrouvons comme ça, il sait ce qu'il a à nous dire. Il sait s'il doit rappeler, alors si la prophétie ou l'introduction de notre frère Jonathan était pour quelqu'un qui découvre l'évangile, gloire à Dieu, ça s'appelle de la révélation. On apprend à ne pas nous s'inquiéter, on apprend à ne pas avoir peur du lendemain, ça c'est le béaba pour les chrétiens. Mais si c'est pour un chrétien de longue date, c'est la preuve que ce chrétien a beaucoup perdu. Mon âme était éperdue, ça signifie également que beaucoup de choses ont été perdues. Mais Dieu sait. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu sait ce qu'il doit faire. Il sait comment aider quelqu'un. Il sait comment rattraper quelqu'un. Il sait comment le rejoindre. Vous avez vu le jour de la résurrection, ces deux disciples qui auraient dû rester à Jérusalem et qui n'ont pas écouté, ils sont partis à Emmaüs. Comment le Seigneur les a rejoints? Avec une question. Jésus savait très bien de quoi ils bavardaient. Et Jésus va leur dire, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Il les atteint, il le sait. Vous prenez Jacob qui a très 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 mal commencé. Et bien quand Jacob fuit, Dieu ne l'abandonne pas. Et on pourrait, le temps nous manque bien sûr, prendre toutes les fois où Dieu rejoint quelqu'un. Et les fois les gens disent, oui, Dieu m'a abandonné, le Seigneur il s'est plus occupé de moi. Mais ce n'est pas possible. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. C'est nous qui perdons la foi. C'est nous qui perdons la conscience. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Jamais Dieu ne s'éloigne de quelqu'un. Et même quand David, le roi David, le dit, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de toi. Vous voyez, même des hommes qui connaissaient Dieu, dans des moments de désert, parce que le désert, ça fait partie de l'école. Oui, il y a les verts pâturages, oui, il y a les eaux paisibles, mais il y a l'école. Alors il faut voir, parce que si on veut que la grâce et la paix nous soient multipliées, pas par la connaissance biblique, par la connaissance de Dieu. Dieu, on doit apprendre à le connaître, il doit devenir vraiment notre Père. Et quelle grâce lorsque nous pourrions même devenir un ami ou un bien-aimé, quand je vois à trois reprises que l'ange Gabriel dit, tu sais comment on t'appelle au ciel? Enfin, je transpose un peu, tu es un bien-aimé. Ah bon, vous rendez compte, cet homme, la communion qu'il avait développée avec Dieu, à tel point que Dieu a pu dire, cet homme, c'est un homme bien-aimé. Ça encourage ou ça décourage? Ben, ça encourage. Ce texte nous montre que Dieu ne nous rejette pas. Il sait intervenir. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment s'approcher de nous. Il sait si on a été déçu, on aurait aimé, il y a eu telle expérience, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Je pensais que ma famille se convertirait. Ils ont tous été guéris. Moi, dans ma famille, vous savez, tous ont été bénis. On est deux ou trois à être restés fidèles. Et pourtant, je peux dire que tous ont été bénis, guéris, exaucés. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas abandonner Dieu parce qu'il y en a qui abandonnent. Comment Dieu s'y prend? Est-ce que Dieu fait des reproches lorsqu'il reprend quelqu'un? Est-ce que Dieu aurait pu faire des reproches à Élie? Tiens donc, soyons honnêtes. Est-ce que Dieu aurait pu dire à Élie, Élie, ah, tu sais, tu m'as déçu. Hein? C'est pas ton habitude. Hein? Je ne t'ai jamais demandé de partir, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, aujourd'hui, j'ai des reproches à te faire. Je suis pas content de toi. Est-ce que Dieu aurait pu lui parler de cette façon? Ben oui, enfin, de toute façon, Dieu est de souverain, il aurait pu. Il aurait pu, vous voyez, quand Jésus rejoint les 11 dans la chambre haute et que Judas, il s'est suicidé, justement. S'il l'avait connu, il l'aurait pas fait. Thomas, il n'était pas là, et puis il est arrivé parce qu'il a quand même senti qu'il fallait qu'il se retrouve avec ses frères, il a bien fait. Et puis Jésus rentre sans passer par la porte, et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ah, c'est maintenant que t'es là? Jésus lui dit, Thomas, regarde mes mains. Moi, je trouve que c'est... Moi, j'aurais fait des reproches, j'aurais dit à Thomas, écoute, Thomas, t'es un pauvre type, Thomas. Regarde mes mains. Nous, on interprète ça, bien sûr, comme des reproches, parce qu'on est susceptible et qu'on n'a pas compris la puissance de Dieu. On chante, tu es grand, mais on ne le croit pas. Si on le croyait, on n'aurait certainement pas besoin de réentendre. Au bout de 5 ans de conversion, n'aie pas peur du lendemain. Donc Dieu s'approche de Élie. Qu'est-ce qu'il fait au fait? Alors on le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il demande de la mort. Vous êtes d'accord que c'était bien que Dieu l'exauce pas? Est-ce que Dieu aurait pu dire, écoute Élie, tu demandes quelque chose? Ça va être très 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 difficile. Regardez, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Alors il en a marre, il en a assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, vous voyez, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, quand on commence à se comparer aux autres aussi, ça c'est pas bon. Ne vous comparez jamais à quelqu'un, soyez vous-même. Mais ça c'est archi important. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train, il faut qu'ils ressemblent à telle idole. Dans le monde, les ados veulent ressembler à tel chanteur, à tel sportif, et ils sont continuellement détruits. Ne vous comparez jamais à quelqu'un, soyez vous-même. Et pourtant, c'était quelqu'un d'une certaine trempe, Élie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, Dieu le reprit sévèrement. C'est comme ça que vous avez dans votre Bible? Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit. Oh, Dieu aurait pu mettre un morceau de pain dur? Non. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Vous vous rendez compte? En plein désert, micro-ondes. C'est pas beau? Non mais, écoutez, je peux l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Moi, je vois la bonté de Dieu. Dieu, franchement, il aurait pu lui dire quand même, t'es le pasteur d'Israël, t'es le grand homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Non, il prend soin de son corps, vous savez. On a un esprit et on a une âme. Notre esprit et notre âme habitent dans notre corps. Mais je crois qu'il faut veiller sur son corps. Et la première chose que Dieu fait, c'est qu'il prend soin de sa santé physique. Oui ou non? Et d'une façon délicate, avec de la tendresse. Et c'est vrai qu'il aurait pu lui mettre un morceau de pain et une orange moitié sèche. Non! Un gâteau, etc., sur des pierres chauffées, de l'eau fraîche certainement, il mangea et but, et il se recouche. Donc Dieu le restaure physiquement. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, je ne pense pas qu'il lui a donné un coup de poing, il a délicatement, il l'a réveillé. C'est, vous savez, la tendresse, c'est quelque chose. Oui ou non? Eh oui, c'est un fruit de l'esprit, la douceur. Il dit, lève-toi, mange, voyez, de nouveau, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Regardez l'expérience que va faire cet homme. Il fuit, Dieu le rejoint, il envoie un ange pour lui donner à manger de bonnes choses, il se repose, il va... Quand même, c'est une expérience, non? Que Dieu envoie un ange pour vous donner du gâteau, des gâteaux. Oui ou non? Est-ce que c'est une belle expérience? Ben quand même. L'expérience de l'ange, etc., l'expérience du gâteau, l'expérience des boissons fraîches, la force que cela va lui donner. Et pourtant, voyez, même s'il fait une expérience, des expériences, cela ne règle pas le problème spirituel. Et c'est pas parce qu'on fait des expériences avec Dieu qu'on a réglé le problème de la communion avec Dieu. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Moi, il m'a fallu être pasteur pour comprendre cette vérité. Des gens qui font des expériences plus belles les unes que les autres et qui, 15 jours après, sont rétrogrades et n'ont jamais connu la communion avec Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu en nous enseignant ce texte. D'ailleurs, on le voit bien, regardez. Il fait 3 ou 4 expériences. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il marche 40 jours et 40 nuits. C'était une expérience extraordinaire au niveau de la force physique. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne. Bon, c'est jamais bon signe quand on entre dans une caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il n'y a pas de reproche. Dieu veut faire le point avec son serviteur. Il a encore besoin de lui. Heureusement qu'il ne l'a pas repris. Que fais-tu ici, Élie? Donc, voyez, l'expérience n'a pas réglé le problème de la communion. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous voyez, il est en colère. Il n'est pas content du tout, il pense qu'il est tout seul. Là aussi, c'est un problème quand on pense que tout le monde nous a abandonnés. Je suis tout seul, j'en ai marre. Vous savez, des caliméros, il y en a partout dans les églises. Et je crois qu'il faut veiller à faire attention parce que plus loin, il va le lui dire, mais il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Mais c'est sûr, ils n'étaient peut-être pas de la trempe d'Élie, mais c'était quand même des fidèles. Et ne nous imaginons pas qu'on est tout seul. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a partout des chrétiens sur la terre qui sont dans des conditions différentes. Nous ne sommes pas seuls. Et quand vous êtes seul dans votre chambre, ne vous aigrissez pas, ne commencez pas à répéter en boucle les choses, parce que, regardez au verset 9, 10, il dit, Dieu va lui faire faire une expérience, mais au verset 14, malgré la parole de Dieu, il recommence. Vous savez, quand on se répète toujours, c'est pas bon signe. Il recommence, verset 14. Oui, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé, etc., etc. Voyez, il n'arrive pas à retrouver la communion avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu pose une question, mais qu'est-ce que tu fais? Ce soir, Dieu pourrait nous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Est-ce que Dieu pourrait nous poser la question d'une manière très saine, sans culpabilisation, d'une manière intelligente? Qu'est-ce que tu fais ici?
Je crois que Dieu pourrait nous poser cette question. Enfin, moi, je sais que je l'accepterai et je pense que je répondrai dans mon cœur. Mais voilà, j'ai besoin d'apprendre à mieux te connaître. Qu'est-ce que tu fais ici ? Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est impressionnant la façon dont va Dieu s'y prendre pour que Élie réapprenne quelque chose. Élie est en train de fuir, il a eu peur d'une femme, bon, qui était méchante, c'est vrai, une femme mauvaise et perverse qui voulait le tuer. Rappelez-vous comment Pierre n'a pas eu peur devant le soldat qui venait arrêter Jésus, il a failli d'ailleurs en tuer un, et une heure ou deux après, devant une servante qui lui a juste dit « mais t'es pas un du groupe ?» Il s'est énervé, vous voyez, il a commencé à renier Jésus. On ne sait pas ce qui peut nous faire chuter. Vous savez que celui qui est debout prenne garde. Et donc on voit Dieu qui va commencer au-delà de la question. Il est là, il a besoin de cette question. Parce que c'est clair, quand vous connaissez bien la Bible, vous savez très bien que Dieu pouvait poser cette question. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas dans l'habitude d'Élie de fuir la volonté de Dieu. C'était un homme impeccable, impeccable Élie. Mais là, il s'est égaré, il a fui dans le désert. Le désert, c'est tout le temps l'image de ces endroits difficiles. Quand Moïse parle du désert, il dit c'est un affreux, méchant désert, avec des serpents brûlants, des scorpions. En fait, quand Moïse décrit le désert, en fait, ça vous donne une idée de la souffrance que l'on peut endurer, des plaies que l'on peut recevoir. Donc, Dieu va lui faire une expérience. Il va lui dire « Que fais-tu ici ?» Et en même temps, il lui dit au verset 11, c'est important, comment Dieu parle ? Comment Dieu te parle ? Il ne parle que par la parole. Si vous demandez au Seigneur « Seigneur, parle-moi », vous lirez la Bible, ça c'est sûr. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Quand Dieu te dit « Sors », sors de ta... De ton, je sais pas que je voulais, des gens qui boudent, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de râler, de bouder, de s'irriter, de s'apitoyer. Sors de ton apitoiement. Sors! Il était là au rêve, qu'est-ce qu'il a pensé toute la nuit? C'est quand même un homme de Dieu. Nous, on est là avec nos petites connaissances. Mais n'oubliez pas qu'il est au rêve, là où il y a des siècles en avant, Dieu avait parlé à Moïse. C'est là où Dieu a donné la révélation à Moïse des 10 commandements. Peut-être qu'il se disait, mais qu'est-ce que. Je suis là, Dieu a parlé à Moïse, et moi je suis là, j'ai peur, je veux mourir. Vous savez, il s'en passe des choses dans la tête, non? Ça vous est arrivé de passer 3 ou 4 heures sans dormir des fois? Il s'en passe des choses, non? 3 ou 4 heures dans la tête? S'il fallait écrire tout ce qu'on a pensé en 3 ou 4 heures, on utiliserait beaucoup d'encre. Oui ou non? Il a dû se passer beaucoup de choses. Eh bien, Dieu, il est là. Il est avec lui. Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible où il est dit « L'Éternel lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. » Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Quand vous avez des chrétiens qui ont peur du lendemain, quand vous avez des chrétiens qui disent « Je ne sais pas si Dieu m'aime. » Écoutez-moi, je vous le dis, mais sans mépris, si vous pensez que Dieu ne vous aime pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Regardez dans Hébreu, s'il est beau ce verset. C'est des versets moi, que j'ai appris par cœur. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin. Regardez s'il est beau ce verset. Hébreu 13, verset 5. C'est la deuxième partie du verset. La première partie, c'est sur l'amour de l'argent. Regardez, Hébreu 13, verset 5. La deuxième partie. Regardez cette parole. C'est Dieu qui vous te la donne. C'est pas écrit pour les autres, c'est pour toi. Regardez, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tous, on devrait dire, amen. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Dieu lui-même a dit, pour qu'on comprenne bien que c'est pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Dieu qui l'a dit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Vous entendez, mes frères et sœurs? Le Seigneur vous dit, te dit, « Je ne t'abandonnerai point ». Par contre, il est aussi dit qu'il y a des gens qui abandonneront la foi. Oui ou non? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Quelqu'un qui perd la foi, qui abandonne la foi, qu'est-ce quand on abandonne quelque chose? Moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner une vieille machine, un truc d'électroménager, vous l'avez jeté à la poubelle? Est-ce que vous l'avez déjà abandonné, un appareil? Pourquoi vous l'avez abandonné? Parce que ça ne sert à rien. Mais quand on abandonne la foi, c'est qu'on n'a pas certainement la bonne foi. Parce que quand on a la foi, on ne l'abandonne pas la foi. Elle est trop précieuse la foi. Et les gens qui abandonnent la foi, c'est qu'ils ne sont pas connus la vraie foi. Ça c'est sûr, elle ne leur sert à rien. Dieu rejoint les gens. Dieu permet des épreuves, comme quand Jésus a obligé les 12 à traverser la tempête. Il est dit qu'il les a obligés à traverser la tempête. Il les a obligés. Donc, ils étaient dans la volonté de Dieu. Et Dieu déclenche une tempête. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il les rejoint. Il les rejoint en marchant sur la mer. Le Seigneur peut vous rejoindre où que vous soyez, dans n'importe quel cas de figure où vous êtes, où que vous soyez, ne serait-ce le fond de l'abîme, comme Jonas l'a expérimenté dans une circonstance particulière, du fond de l'abîme, je crie à Dieu. C'est bizarre comme des fois, on est encouragé à prier. C'est drôle comme Jonas, d'un coup, à un moment donné, il se met à prier. Oui, bon, c'est vrai qu'il y avait des circonstances qui favorisaient la prière. Peut-être pas les odeurs, mais les circonstances favorisaient la prière. Donc, Élie va faire une expérience. J'aimerais juste qu'on termine avec cette affaire, comment Dieu s'y prend. Je ne sais pas comment Dieu fera avec vous. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Sors. Vous seriez sorti, vous? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Peut-être c'est ce qu'il vous dit, mais sors de ta paresse, sors de ta désobéissance, sors de ta caverne. Bon, bien sûr, il sort, il le connaît. Alors, et voici. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voilà la pédagogie de Dieu. Qu'est-ce qu'il a eu, Élie? Il a eu peur. Il a eu peur de la puissance d'une femme. Elle était puissante, c'est vrai. Mais Dieu va lui montrer qui est puissant. Et Dieu voudrait que nous sachions qui c'est qui est puissant. Voyez, on a chanté à juste titre, « Tu es grand, Seigneur ». Et je suis persuadé que c'est lui qui l'a composé. Non? Est-ce que Élie aurait pu chanter en rentrant à la maison « Tu es grand, Seigneur » Est-ce qu'il aurait pu le chanter ce cœur? Est-ce que s'il était là, Élie, ce soir, en permission, est-ce qu'il pourrait dire « Oui, oui, c'est vrai, Dieu est grand » Et Dieu lui dit « Regarde, regarde ce que je peux faire. Je peux briser les montagnes, briser les rochers, le feu, le vent, enfin, une manifestation de puissance. » Et Dieu n'était pas dans ces choses. Il peut l'être. À la Pentecôte, il y avait un feu. On voit bien à certaines reprises qu'une fois, il y avait du vent, etc. Dieu est souverain. Il intervient comme il veut, quand il veut. Il sait ce qu'il fait. Mais Dieu est dans le murmure doux et léger. Parce que ce n'est pas la puissance de Dieu qui amène la communion. Ce qui amène la communion, c'est le murmure doux et léger. Et je venais à moi car je suis doux et humble de cœur. Ce qui amène la communion, ce n'est pas les expériences. Ce qui amène la communion, c'est véritablement de se retrouver seul avec le Seigneur. Et là, il s'enveloppe, il sort de son manteau. Je ne sais pas, je me suis fait plein de tableaux déjà. Je le vois, Élie s'envelopper de son manteau avec ce qu'il venait de voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Enfin, quand vous avez les rochers qui se brisent, les montagnes qui se brisent, ça doit faire du bruit aussi. Il est tout puissant. Vous entendez? Et quand le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais maintenant, là, je ne sais pas quelle journée, le 16 juillet 2017, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à sortir et à voir qu'il y a un Dieu plus puissant que les Jézabel? Mes frères et sœurs, Dieu est plus puissant que Satan, Dieu est plus puissant que tout ce que vous voulez. Il est tout puissant. Mais vous le croyez? Qu'est-ce que vous pensiez tout à l'heure quand on a chanté « Tu es grand, Seigneur » À quoi penser? Moi, je pensais à ma prédication. Je pensais à Élie qui partait, qui repartait et qui disait « Oui, Seigneur, tu es grand. » Quand on n'en a pas fini, Dieu ne reprend pas. Il n'avait pas fini son travail. Regardez ce que Dieu va lui dire. Allez, on termine avec la conclusion quand même. C'est, regardez, donc, il est dans la frustration, mais regardez au verset 15, l'Éternel lui dit, regardez si c'est beau, « Va, reprends, regardez, mais il faut s'arrêter, reprends ton chemin. » Oh, quelle est belle cette parole. Dieu lui dit pas, écoute, tu as fui maintenant, allez hop, de côté. On aurait pu dire, reprends ton chemin jusqu'à Damas. Eh non, reprends ton chemin par le désert. Aïe, 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 ce désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, de quoi Dieu lui parle? Oui, on est loin des quelques heures d'avant. Qu'est-ce que Dieu lui demande? D'oindre Azaël. Pour roi de Syrie, tiens, il va y avoir un nouveau roi. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël.
et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Et vous lirez la suite, vous allez voir bien sûr comment ces choses se sont passées. Dieu lui parle d'onction. Voyez, nous on est là, on a peur, on fuit, on s'inquiète, on se décourage. « Seigneur, reprends-moi, j'en ai marre, je veux mourir. » Moi je l'ai fait. Alors là, écoutez-moi, si vous, peut-être je suis celui qui l'a demandé le plus. Alors ne vous inquiétez pas, on peut compter tout à l'heure le nombre de fois où vous l'avez demandé et le nombre de fois où je l'ai demandé. Et c'est celui qui l'a demandé le plus à qui on paiera le restaurant. Je suis sûr que vous me le payerez. Mes frères et sœurs, c'est pas interdit. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai avec le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu intervient, qu'il dit « Qu'est-ce que tu fais ? Sors ! Écoute ! » Moi, j'ai des choses à faire. Il y a de l'onction sur des hommes. Il y a un gars qui va te remplacer. Il te faut loindre. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être en bénédiction pour les autres, pour les gens qui vous accompagnent, pour les jeunes qui sont là, pour vos enfants ? Vous ne croyez pas qu'il y a de l'onction pour nos enfants ? Vous croyez que Dieu peut mettre de l'onction sur nos enfants ? Que Dieu peut mettre son onction sur des jeunes, sur des moins jeunes, sur des nouvelles personnes, sur des rétrogrades ? Oui, tu vas repartir par le désert. Eh bien, tu es dans le désert, écoute, il y a encore un peu de désert. C'est pas grave. C'est pas grave si le désert continue encore un peu. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant. Il est grand, mais ce qui est beau, c'est pas que Dieu soit tout-puissant, c'est que Dieu est amour. Et c'est ça qu'on a besoin. Et s'il y a bien quelque chose qui amènera les pécheurs à la conversion, c'est pas la toute-puissance. Jésus a fait des choses magnifiques. C'est la croix qui a amené le réveil. Oui ou non ? C'est la crucifixion de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus qui a mené le réveil à Jérusalem. Et mes frères et sœurs, si nous voulons la grâce, merci pour la puissance de Dieu. Si Dieu permet des miracles, tant mieux. Mais c'est la communion avec le Seigneur qui fera que l'on retrouvera le chemin. Va et oins les gens. Mon frère, ma sœur, là où Dieu t'a placé, amène la bénédiction sur les gens. Fais-leur du bien. Oins-les de ta grâce. Heureux ceux qui procurent la paix. Je ne sais pas, peut-être que vous allez partir en vacances. Faites du bien aux gens. Je ne sais pas si le chemin monte ou si le chemin descend en ce moment. Ce n'est pas grave. Il s'agit que Dieu vous accompagne. Mes frères et sœurs, oui, il est grand. Il est grand, le Seigneur. Et il sait comment revenir nous trouver dans nos endroits où on a fui. Je ne sais pas ce qu'on dirait, nous, un rétrograde ce soir. Eh bien, moi, je dirais à tous les rétrogrades, le Seigneur, il vous rejoindra. Laissez-vous rejoindre. Parce qu'il faut se laisser rejoindre aussi. Que le nom du Seigneur soit béni.